Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie pour tous les mots d'encouragement que vous m'avez donnés cette semaine. Ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait du bien parce que des fois j'ai l'impression, parce que vous savez, on vit en communauté ici et puis ben, on n'est pas des millions, hein, et je vois qu'il y a des milliers de personnes qui viennent sur Révélation Bible et je me dis, mais est-ce que vraiment ils écoutent ce que je dis? Est-ce que, parce qu'il y en a beaucoup qui disent Amen, merci. Merci, gloire à Dieu et tout. Et c'est pourquoi je vous avais demandé de m'écrire un petit mot. Ce que vous m'avez écrit m'a vraiment encouragé. Et ça me fait plaisir. Donc, ce soir, je vais encore vous apporter une parole qui, j'espère, va vous fortifier, va vous rassurer, va vous faire du bien. Prions. Merci Jésus de fortifier mes frères et sœurs et de leur donner d'être vraiment clair avec toi et avec les autres et que ils puissent se mettre vraiment au diapason avec toi. Dans le nom de Jésus, je te le demande, mon Dieu. Amen. Alors, ne soyez pas dans la confusion, parce que c'est vrai, il y a tellement de doctrines humaines. Je crois que si le vrai christianisme était aussi complexe que certains cherchent à nous faire croire, bien, les gens comme vous et moi, on ne pourrait pas être sauvés. C'est trop compliqué. On ne peut pas se perdre en suivant Jésus. Ce n'est pas compliqué. Et le meilleur moyen de suivre Jésus, de servir Jésus, bien, c'est de lui permettre d'aimer au travers de nous, c'est de le laisser voir au travers de nos yeux les besoins de l'humanité, c'est de lui permettre de se soucier des besoins de l'humanité avec notre propre cœur. L'autre jour, j'ai fait une petite vidéo où je disais que si vous voulez faire la volonté de Dieu, faites comme moi, coupez des bouts de pain, faites des petites miettes, donnez-les aux oiseaux, parce que Dieu a dit que il prenait soin des oiseaux. Mais il prend soin des oiseaux aussi à travers nous, n'est-ce pas? Et après, je dis, une fois que vous aurez fait ça, vous verrez qu'il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Et nous pouvons tellement aimer les gens, donner à manger aux gens, et aider les gens. Il ne suffit pas simplement de prier pour que Dieu le fasse, il faut que nous nous y mettions aussi. Et le meilleur moyen de suivre Jésus, de servir Jésus, c'est de le laisser exprimer cet amour au travers de notre vie. C'est de lui permettre de prouver son amour, cet amour, au travers de l'œuvre de nos mains, de nos pieds, de nos bras, d'être actif, et au travers de tout ce que nous sommes et de tout ce qu'on fait, quoi, en réalité. Jésus est venu et il a dit « Je bâtirai mon Église ». En fait, c'est avec les gens qui composent l'Église de Jésus-Christ que nous prions, que vous priez, que vous apprenez à mieux connaître ce que Dieu a dit et à servir votre prochain. Je vais vous dire une chose, vous savez, dans les églises, il n'y a pas des gens parfaits. Personne n'est parfait. Alors évidemment, on peut se fâcher, se vexer, puis ne plus y aller. Bon, voilà, mais ce n'est pas vraiment bien. Ce qu'il faut faire, c'est prendre le dessus. Alors, c'est vrai aussi qu'on peut très bien rester seul et être en communion avec notre Père Céleste, c'est sûr. Mais la vérité, c'est que le meilleur moyen de prouver notre amour pour Dieu, c'est d'exprimer notre amour envers les autres. Je voudrais vous lire un texte dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20-21. Je lis 1 Jean 4, 20-21. Si, c'est l'apôtre qui parle, Jean, il dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Assurément, voici le commandement qu'il nous a donné, que Jésus nous a donné, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Mais son frère, c'est des fois faire des compromis. C'est des fois difficile parce que il y a des frères qui sont pénibles, il y a des sœurs qui sont pénibles. Les aimer, s'ils étaient tous parfaits, ce serait facile. Hein. Est-ce qu'il y a besoin de commenter ce texte sacré que je viens de vous lire? Non. Il signifie ce qu'il dit très clairement. Et le fait est que le meilleur moyen de servir Dieu, c'est de servir les autres. La confusion vient du fait que beaucoup de chrétiens croient qu'être serviteur de Dieu, c'est avoir eu un appel qui vient du ciel, une grosse voix, je ne sais pas moi, et puis d'aller à l'école biblique, de faire 3 ans d'études, d'être en formation avec un pasteur, et ensuite avoir sa carte de prédicateur, et d'avoir une estrade, un micro, puis de prêcher. Mais ce n'est pas ça un serviteur de Dieu. Ça fait partie, c'est aussi, mais c'est seulement une petite partie du service dans l'œuvre de Dieu. Pensez-y, Dieu est amour. L'amour est de Dieu. Et la Bible nous dit que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. On va lire 1 Jean 4, 7. Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime a Dieu pour Père et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Mais aimer, c'est pas simplement avoir un sentiment envers les gens, c'est prendre part, c'est les servir, c'est les supporter aussi de temps en temps, c'est agir, c'est être avec eux, c'est voilà. Dans la Bible, nous voyons ça sans arrêt. Si Dieu nous a tant aimés, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. C'est ce que 1 Jean 4, 11 nous dit. Je voulais lire dans l'Évangile cette fois, de Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Alors, 13, 34, 35, c'est Jésus qui dit « Je vous donne un commandement nouveau. Continuez de vous aimer les uns les autres. » Comme je vous ai aimé, vous aussi, continuez de vous aimer les uns les autres. À ceci, tous sauront que vous êtes mes talmidim, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, talmidim, c'est le pluriel d'un mot, du mot talmid. Pas talmud, talmid. C'est une chose que d'être un chrétien du dimanche, c'est une autre chose que d'être un talmid. Êtes-vous un talmid? Un talmid, c'est un étudiant, c'est un disciple, c'est une personne qui a une relation de proximité avec son maître. Un talmid, il apprend de son maître, il apprend des choses concrètes, il apprend des raisonnements, et il apprend aussi comment mettre en pratique tout ça. Mais il est plus que ça, un talmid. Il considère son maître comme un exemple à suivre et à imiter. C'est pourquoi Paul disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ ». Alors, à imiter aussi bien en ce qui concerne le caractère que la conduite. Alors, est-ce que vous êtes un talmid? Tous connaîtront que vous êtes mes talmides par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Les chrétiens d'aujourd'hui sont-ils des Talmidim? Or, les gens du monde et les gens de l'Église, tous connaîtront que vous êtes un Talmid si vous avez de l'amour pour vos frères et sœurs chrétiens et puis aussi pour vos frères et sœurs humains, simplement, qui sont des humains, qui ont des autres idées que vous, une autre religion que vous, ou que sais-je. Comment tous peuvent-ils savoir que vous êtes un talmide si vous restez tout seul dans votre coin? C'est difficile que tous le sachent. Hein? Jésus donc bâtit son église et il est scripturaire, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est sacré parce que c'est écrit dans la Bible, c'est scripturaire d'adorer Dieu en compagnie d'autres croyants, de prier dans le sanctuaire du Seigneur, d'être instruit au sujet des voies de Dieu, d'être instruit par un berger, par un pasteur. On va lire Éphésiens 4, 7 d'abord. Voilà ce qu'il est dit là. Il y a un corps et un esprit. De même, lorsque vous avez été appelés à être a une seule espérance qu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, une seule immersion, un seul baptême, et un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Cependant, chacun de nous a reçu sa part de la grâce selon la mesure de la bonté du Messie. Alors, ensuite, on va dire un peu plus loin, verset 8, toujours, c'est pourquoi il est dit, quand il est monté dans les hauteurs, il a emmené captive la captivité et il a fait des dons aux hommes. Et or, ce que peut vouloir dire il est monté, que peut vouloir dire ce qu'il est monté, si ce n'est qu'il est d'abord descendu dans les lieux les plus bas de la terre, et celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté bien au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. De plus, il a donné donc les uns comme émissaires ou apôtres, les autres comme prophètes, d'autres comme proclamateurs de la bonne nouvelle ou évangélistes, les autres comme bergers, enseignants. Vous voyez, on peut continuer encore, leur tâche est d'équiper le peuple de Dieu pour l'œuvre du service qui fait croître le corps du Messie, jusqu'à ce que nous parvenions à ne faire qu'un dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme mûr en conformité avec le modèle de maturité établi selon la stature parfaite du Messie. Alors, ce texte, il n'y a pas besoin de l'interpréter, il suffit de le lire en réfléchissant ce que ça veut dire, et on comprend très très bien. L'Église de Jésus-Christ, c'est cela, c'est un corps. Il le dit deux fois dans le texte d'Éphésiens 4, là, que nous avons lu. Et au commencement, au verset 4, il dit, il y a un seul Seigneur... au verset 4, il dit, voyons où est-ce qu'il est, verset 4, il y a un corps et un esprit, un corps. Alors, on spiritualise un petit peu ce terme, le corps de Christ. Alors, le corps mystique, n'est-ce pas, toutes ces choses-là. Je vais vous donner un exemple très terre-à-terre qui va vous faire comprendre ce que c'est que le corps de Christ. Je vais vous parler des pompiers. On parle du corps des pompiers. Qu'est-ce que c'est le corps des pompiers? Eh bien, c'est un centre de secours qui rassemble au sein de ce centre des gens qui viennent au secours des gens. Alors, ils sont composés en majorité de volontaires et c'est Napoléon qui a créé le bataillon des sapeurs-pompiers, le corps des pompiers. Un pompier, c'est un homme qui fait partie du corps, c'est-à-dire du rassemblement des hommes qui s'entraînent et qui ont la charge de combattre le feu et de sauver les gens de toutes sortes de malheurs. C'est ça, le corps des pompiers. Eh bien, le corps de Christ, c'est le rassemblement d'hommes et de femmes qui s'entraînent et qui ont la charge de combattre les traits enflammés du malin et de sauver les gens du feu de l'enfer et de toutes sortes de malheurs. Voilà ce que c'est que le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est ça. C'est pas quelque chose de mystique, flap, 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 et quelque chose, on ferme les yeux, on met les mains comme ça, en l'air, et puis on dit, ah, je discerne le corps de Christ. Ça, c'est de la gnognotte religieuse. Le corps de Christ, c'est le rassemblement d'hommes et de femmes qui s'entraînent, qui apprennent et qui s'entraînent afin de pouvoir aller sauver les gens du feu, du feu de l'enfer. Et Paul dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Alors, toutes ces assemblées divisées entre elles ne sont pas vraiment à l'image de ce que Dieu veut et de ce qu'on trouve dans la Bible. Et c'est ça le drame. Les chrétiens d'aujourd'hui sont déconcertés par de nombreuses dénominations, par de nombreuses églises qui souvent se condamnent les unes les autres et qui cherchent à recruter les adeptes dans les autres clubs chrétiens. Et je crois que le problème vient en partie des théologiens parce qu'ils semblent croire qu'on ne peut pas accepter littéralement la Bible. Ils croient et enseignent qu'il faut une interprétation technique et judicieuse, et ils croient que tout leur système doctrinal est le seul, n'est-ce pas, à fournir une interprétation correcte et pure. Et c'est un drame. Et bien souvent, ils font ce que Jésus a dit ailleurs, dans Matthieu 23, 24, 25, il dit, En fait, ces gens-là, ils filtrent leur boisson pour en éliminer un moucheron, mais ils avalent un chameau. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas à l'essentiel. Alors, que faire ? Eh bien, ne condamnez pas ceux qui, en toute sincérité, condamnent les autres. Ne condamnez pas ceux qui, en toute sincérité, louent leur propre connaissance de la doctrine. Paul a donné un très très bon conseil qu'on peut trouver dans Romains au chapitre 12, verset 6. Romains 12, 6, il dit ainsi, « Nous avons des dons qui diffèrent et qui sont destinés à être utilisés selon la grâce qui nous est donnée. Si votre don est celui de la prophétie, exercez-le en proportion de votre foi. Si votre don est le service, exercez-le en servant. Si vous êtes enseignant, exercez votre don pour enseigner. Si vous êtes conseiller, exercez votre don pour réconforter, pour exhorter. Si vous donnez, faites-le dans la simplicité et la générosité. Si vous êtes au poste de leader, dirigez avec diligence et zèle. Si vous exercez la miséricorde, faites-le dans la joie. Et que votre amour ne soit pas visible seulement de l'extérieur. Ayez du dégoût pour ce qui est mal et attachez-vous à ce qui est bon. Aimez-vous les uns les autres d'un amour dévoué et fraternel et montrez l'exemple en vous respectant les uns les autres. » Vous voyez, frères et sœurs, ça, est-ce qu'il y a besoin d'interpréter ce texte ? Non, il s'explique par lui-même, on le comprend très bien, on voit très bien ce que ça veut dire. Ne venez pas me dire que vous ne comprenez pas, vous comprenez. Oui, fréquenter les chrétiens, c'est bien, mais ça doit être dans le but de vivre ce que Jésus disait et enseignait quand il était sur la terre. Suivre Jésus, ça n'est pas compliqué. Ce que Jésus dit peut être compris par des gens ordinaires comme vous et moi. On ne peut pas s'égarer en suivant Jésus, on ne peut pas. Jésus le dit très clairement, on trouve ça dans Jean 8, 12, Yeshua, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera jamais dans l'obscurité, mais il aura la lumière que donne la vie. » Vous voyez, on n'a pas besoin d'interpréter ça, on comprend très bien. Celui qui me suit, c'est celui qui est dans l'activité, la même activité, la même intention que Jésus. Voilà, c'est tout. Eh bien, une telle personne ne peut pas se perdre. Elle ne peut pas se perdre parce qu'elle marche dans la lumière. Vous voyez, c'est ainsi que nous avons vu, nous autres ici, que les premiers chrétiens vivaient ensemble parce qu'on a lu les Écritures, puis on a vu ça dans les Écritures. Alors, on a vu qu'ils mettaient tout en commun, qu'ils partageaient leur repas chaque jour, ayant un seul cœur, une seule âme. On a lu ça dans Actes, chapitre 2, chapitre 4, et on a copié ce modèle, tout simplement. Moi, je n'ai pas entendu une voix qui me disait qu'il fallait le faire. Je l'ai vu dans la Bible, puis j'ai décidé de le faire. Ce n'est pas compliqué. Et nous nous aimons les uns les autres, et puis ceux qui ne nous aiment pas, ben, ils ne nous fréquentent pas. Puis c'est tout. C'est tout, ce n'est pas un problème. Alors, nous vivons ainsi, mais nous ne condamnons pas ceux qui ne vivent pas comme ça. Nous avons un absolu de foi, c'est vrai, parce que nous vivons ce que nous comprenons des textes sacrés, on ne vit pas ça au hasard. Alors on en parle, c'est sûr, avec conviction, c'est sûr, mais on ne condamne pas ceux qui ne veulent pas vivre comme ça. Le conseil que je vous donne, c'est d'être compréhensif envers les autres chrétiens. S'ils accusent et condamnent les autres églises, n'absorbez pas leur amertume. Gardez le cœur pur. Aimez les gens. Soyez une influence pour le bien. Il y a juste une règle qu'il faut garder. Il n'y a qu'une église véritable. Le corps de Christ, il a dit « je bâtirai mon église », il n'a pas dit « je bâtirai des tas d'églises », non, il a une église. Et cette église qu'il est en train de bâtir, elle se compose de tous les chrétiens authentiques qui croient en Jésus-Christ et dans son évangile. Tout homme, toute femme qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, conçu du Saint-Esprit, né d'une Vierge, qui est venu comme Dieu en chair, qui s'est chargé de nos péchés par sa mort sur la croix, qui a versé son sang pour la rémission de nos péchés, qui est mort pour nous et est ressuscité d'entre les morts pour notre justification, qui est maintenant assis à la droite de Dieu et qui intercède à jamais pour nous. Je vous le dis en vérité, mes frères et sœurs, chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui croit ces choses, qui est venu à Dieu comme un pécheur, qui est venu à Dieu en confessant son péché, qui s'est repenti, qui a fait appel au nom de Jésus-Christ, le seul sauveur, et qui croit en Jésus comme son sauveur personnel, eh bien cette personne est un authentique chrétien. Peu importe la compagnie de chrétiens qu'il fréquente, avec qui il adore Dieu, avec qui il chante, avec qui il prie, avec qui il étudie, peu importe. Vous voyez, suivre Jésus signifie adorer Dieu, apprendre, aimer les autres, les aider et avoir un cœur pour son prochain. Un cœur pour son prochain. Vous voyez, le meilleur moyen d'exprimer tout cela, eh bien, c'est dans le contexte d'une communauté de chrétiens de votre localité. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais lire un dernier texte. Ça se trouve dans Hébreux chapitre 10, verset 24. Hébreux 10, 24, 25. Veillons les uns sur les autres. Comment on peut veiller les uns sur les autres si on est tout seul dans sa cuisine? Veillons les uns sur les autres afin de nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, sans négliger les réunions de nos assemblées, comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais nous encourageons les uns les autres. Pas besoin d'interpréter ce texte. Vous pouvez le comprendre aisément, c'est simple. La Bible n'est pas un livre compliqué. Vous pouvez le comprendre. Alors voilà, voilà un beau programme pour cette année, peut-être de remise en question au sujet de certaines choses. Et je prie le Seigneur qu'il vous aide, qu'il m'aide à marcher toujours à sa suite en aimant les uns les autres, même ceux qui sont d'un caractère un peu difficile. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Jésus. Fortifie chacun et chacune et bénis-les. Bénis-les. Je sais qu'ils ont compris ce message d'aujourd'hui et je sais que cela va les aider à changer un peu les choses, mais dans le bon côté. Je te remercie pour cela, mon Dieu. Bénis chacun et chacune. Amen et amen. Alors, n'oubliez pas, vous cliquez que vous aimez ce que vous avez entendu, vous me faites un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et puis vous inscrivez à la newsletter. Aussitôt que vous inscrivez à la newsletter, eh bien, vous recevez de notre part un mail qui vous permettra de valider cela. Et alors, vous allez pouvoir recevoir régulièrement de nos nouvelles, si vous en avez envie. Voilà, il n'y a rien d'obligatoire. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Et puis, faites un don aussi pour l'œuvre humanitaire. Ça ne fera pas de mal. Il y a tellement de besoins dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.